Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 918 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Exceptionnellement, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook Invino comme chaque samedi. Je suis en compagnie de Philippe Fabrac, meilleur sommelier du monde, pour un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Bonjour Philippe.
Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci de nous suivre dans cette période de confinement.
Exactement, du monde entier sont avec nous pour accueillir notre première invitée, Sylvie Caz, propriétaire notamment du Château Chauvin, un grand reclassé de Saint-Émilion. Bonjour Sylvie.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors déjà Sylvie, le confinement, comment vous le vivez, vous, Sylvie, en terre bordelaise ?
Alors à Bordeaux, nous avons plutôt de la chance parce que d'abord moi j'ai un petit bout de jardin et donc c'est un vrai bonheur que de pouvoir rentrer sortir de la maison. On est dans une région qui est relativement protégée. Nous avons aussi
l'Aquitaine, oui c'est vrai.
Oui, qui est relativement protégée. Ceci dit, nous sommes totalement confinés, bien sûr.
Totalement confinés. Alors hier soir, il s'est passé des choses pas terribles chez vous, hein. Il y a une vilaine grêle qui est arrivée, c'est ça, en terre ça. Saint-Émilion. Alors, également, en Entre-deux-Mers.
Sur la propriété, bien entendu, le travail continue. Et la vigne, d'ailleurs, est magnifique. Le débourrement a été superbe. Et aujourd'hui, nous avons des grappes, des toutes petites grappes, des petites sorties de grappes qui sont magnifiques. Et malheureusement, hier soir, nous avons eu un épisode de grêle. Alors, pas chez nous, à Chauvin. Mais par contre, dans l'Entre-deux-Mers et dans la région de Saint-Émilion, autour de Saint-Émilion, il y a eu quelques attaques de grêle assez sévères. Oui.
Le débourrement, Philippe Forbach, qu'est-ce que c'est exactement ?
Débourrement, c'est les feuilles qui s'ouvrent, les bourgeons qui s'ouvrent, et le début de ces micro-grappes qui apparaissent.
C'est une bonne nouvelle pour la vigne.
Elle est indispensable. Après, l'autre étape, ça va être un peu plus tard, au moment de la floraison. C'est-à-dire quand cette mini-grappe va donner à chaque fois des petites fleurs. Ça, c'est une étape extrêmement importante. En général, c'est en juin que ça se passe.
En juin. Sylvie Caz, un mot sur ce château, le château Chauvin, donc Saint-Émilion, grand cru classé. Un petit mot sur l'historique. Vous l'avez acheté assez récemment, la propriété.
Voilà, c'est une propriété que nous avons achetée avec mes enfants en 2014. Donc, il y a peu, nous avons beaucoup restructuré, arraché, replanté certaines parcelles. Nous avons ajouté d'ailleurs pas mal de Cabernet France qui donne un 2019 aujourd'hui magnifique grâce à cette proportion. Et puis, c'est une propriété, nous avons drainé bien sûr, nous avons donné un certain nombre de moyens. Et on est ravis, ça se situe dans la partie nord de Saint-Émilion et proche de Pomerol. Nous avons un terroir superbe fait de couches d'argile, un terroir sablo-argileux, mais avec des couches d'argile qui permettent de maintenir la fraîcheur dans les vins. Et c'est très important pour nos vins de Saint-Émilion.
Combien d'hectares au total vous avez, Sylvie, sur le domaine ?
On a aujourd'hui 16 hectares.
16 hectares. Philippe Forbrac, parlons un peu de Saint-Émilion et de ce fameux classement. Est-ce qu'il est comparable à celui du Médoc, Philippe ?
Alors, il est un peu différent parce que le classement, les crus classés, les grands crus classés du Médoc, qui sont un peu figés dans le marbre depuis 1855, même s'il a été révisé une fois en 1973 avec l'accession de Mouton Rothschild à la place de premier grand cru classé. Saint-Émilion, c'est un classement avec une révision décennale. Ça garde une certaine pression, hein, n'est-ce pas, Sylvie?
Oui.
Parce qu'il faut rester, j'allais dire, au niveau. Il faut continuer à investir. Vous le disiez à l'instant, vous drainez, vous avez replanté du Cabernet Franc et dans la période d'évolution climatique comme on le voit en ce moment, c'est très important pour avoir de l'acidité justement et garder de la fraîcheur. alors que le Merlot peut donner des vins qui sont parfois un petit peu trop lourds. Donc, il faut, voilà, à Saint-Émilion, il y a une pression. Et en même temps, Saint-Émilion, c'est à la fois un village parmi les plus connus de France, les plus beaux.
Ah oui, très beau, aussi. Très, très beau, hein, magnifique.
Une appellation qui s'ancre dans l'histoire depuis très longtemps, de cette fameuse rive droite du Bordelais, à côté de Libourne et de Pomerol. Et c'est classé aussi au patrimoine de l'UNESCO, par l'UNESCO, je veux dire, au patrimoine de l'humanité depuis un certain temps. Donc, ça donne aussi des obligations, mais par contre, ça donne un coup de projecteur extraordinaire, effectivement, à la fois sur la ville et ses vignobles.
Sylvie, vous avez une casquette donc de vigneronne, hein, et vous êtes fière de l'être, et c'est formidable, c'est le plus beau métier du monde, à égalité avec la restauration, parce que vous avez aussi un restaurant qui est référent à Bordeaux, un monument, le Chapon Fin, qui a vu le jour en 1825. Sylvie, alors aujourd'hui, ça c'est pas très drôle comme sujet, tout est fermé, ça pose des vraies problématiques, notamment économiques, Sylvie.
Oui, absolument. Tout est fermé. Toutes nos équipes, bien entendu, sont au chômage partiel. Et puis, nous attendons avec impatience la réouverture. Tout le monde est prêt à donner le maximum dès que ce sera possible.
Oui. Et selon vous, donc le positionnement du Chapon Fin, c'est un restaurant clairement gastronomique.
Mmh. Oui, tout à fait. Alors, on a un chef qui a passé 10 ans chez Taïwan. Et qui connaît bien les produits, en particulier les produits de la région que nous travaillons. En ce moment, il y a des asperges absolument extraordinaires. Je suis désolée qu'on puisse pas vous les faire goûter.
On peut imaginer.
Mais on peut les imaginer ou les essayer chez soi. On fait ce qu'on peut.
Exactement. nous travaillons des produits, bien sûr, de la région et surtout une cuisine inventive, certes, mais sur des bases de cuisine traditionnelle et de ce qu'on appelait la grande cuisine, bien sûr, voilà, à l'époque de Kurnonski.
L'asperge n'est pas un produit simple à associer, là. Parce que pour les amateurs d'asperges et de vin.
Non, c'est pas facile, exactement.
Mais il faut un vin blanc, bien sûr, plutôt aromatique.
Une bière.
Ou pourquoi pas, ou une bière blanche, bière rafraîchie, ça marche pas mal aussi. Mais dans le côté vin, et notamment le côté bordelais, les vins de Sauvignon, je pense à l'Entre-deux-Mers, je pense au Grave, je pense au vin de Blaye, par exemple.
Ça marche bien, quoi.
Ça fonctionne vraiment particulièrement bien.
Sylvie, vous avez également une activité événementielle, voyage, qui souffre, qui est à l'arrêt également en ce moment, avec la société que Bordeaux Saveur. Quelles sont les différentes prestations que vous dispensez à une clientèle française, mais également internationale, Sylvie?
Alors, Bordeaux Saveur est une agence réceptive internationale qui propose des séjours sur mesure dans les vignobles, la plupart des vignobles européens, et en particulier à Bordeaux, bien sûr, mais aussi dans toutes les autres régions de France. Aujourd'hui, bien sûr, sur le premier semestre, la plupart de nos séjours ont été annulés.
Compliqué, très compliqué.
Sur le deuxième semestre, ils n'ont pas encore été annulés. Nous espérons qu'ils ne le seront pas. Et surtout, nous nous engageons à proposer aux amateurs de vin des séjours dans nos vignobles à partir du mois de juillet, des séjours dans nos vignobles sous une grande protection sanitaire. C'est-à-dire que nous allons leur proposer des lieux individuels, des maisons, des lieux où ils vont pouvoir être ensemble, en famille, par exemple, uniquement. Et puis, des séjours sur mesure avec des visites sur mesure. On a d'ailleurs, vous pouvez voir sur notre site…
BordeauxSaveur.com, je suppose.
Voilà. un vignoble, ça s'appelle le vignoble pas à pas. Et en fait, on fait des visites de vignobles individuelles. Et dans chaque visite, le guide va s'adapter de manière à ce qu'il n'y ait pas de répétition. C'est-à-dire que dans un vignoble, on va regarder la vigne. Et je pense qu'il va falloir, nous aurons aussi pas mal de produits autour des visites de la vigne, des vignobles, du travail de la vigne. Et puis, à l'intérieur, du travail du chai, la barrique, etc., etc. Donc, des visites thématiques.
De façon générale, Sylvie Caz, l'enjeu de l'œnotourisme pour un vignoble comme le Bordelais, c'est vraiment très important.
Ah, c'est très important aujourd'hui, oui. Le vignoble de Bordeaux reçoit énormément de visiteurs et de plus, d'après les comptages potentiels. Aujourd'hui, c'est très important parce que c'est le meilleur moyen de faire connaître nos vignobles et nos vins.
D'accord. Et au niveau, donc, aujourd'hui, donc, est-ce que le sentiment, donc, l'ensemble des châteaux, des domaines, se disent que c'est important. Il y a juste une petite partie des propriétés qui sont concernées. Est-ce que du petit vigneron qui a une petite exploitation et qui est tout à fait noble jusqu'au grand château, tout le monde se dit, allez, c'est l'union sacrée autour de l'œnotourisme. C'est important pour la région, quoi.
Absolument, absolument. On peut visiter tout un tas de vignobles très différents, des grands crus, mais aussi des petits viticulteurs qui sont ravis de vous accueillir eux-mêmes dans leur vignoble. Et c'est tout ça, enfin, ce sont des visites, je pense, qui vaudront vraiment la peine d'expérimenter dans les 6 prochains mois.
À découvrir. Sylvie Casse, vous êtes aussi présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Oui. Quel est le rapport entre cette fondation et la Cité du vin à Bordeaux ?
Alors, la Fondation exploite la Cité du vin. En fait, avec une petite équipe, il y a plus de 10 ans maintenant, nous avons démarré ce projet autour d'Alain Juppé. Et puis, nous avons ouvert en 2016, donc il y a bientôt 4 ans. Et aujourd'hui, la Cité du vin fonctionne merveilleusement bien avec plus de 400 000 visiteurs, sauf depuis le 15 mars, bien entendu.
Et évidemment, quoi. Le financement de cette cité, c'est important de le préciser, Sylvie. Donc, il y a eu un financement public, mais également privé. Donc là, c'est pareil, il y a eu un peu l'union sacrée autour de ce grand projet international.
Exactement, c'est l'union sacrée. Toutes les collectivités territoriales se sont rassemblées pour financer et nous avons réussi également à avoir plus de 25% du montant qui était de 80 millions qui ont été apportés par des fonds privés et en particulier 80 entreprises mécènes, viticulteurs ou négociants.
Qui sont venus directement. Alors aujourd'hui, la cité, elle est bien sûr fermée comme tous les musées de France hein, pour une durée indéterminée, mais par contre… Heureusement, grâce au numérique, on peut également avoir une visite virtuelle. Racontez-nous avec la médiathèque, Sylvie.
Voilà. Sur le site, vous allez retrouver notre médiathèque. Bien sûr, vous allez avoir des images du parcours permanent, mais surtout la médiathèque. Et dans la médiathèque, vous pourrez choisir entre des conférences, des rencontres, des visites de régions viticoles. Vous allez voir des témoignages. Vous aurez des pages d'histoire également. Vous allez comprendre d'où vient la vigne et où le vin a été produit dans ces premières années. Vous aurez des podcasts, des vidéos, vous aurez… je vous invite à vraiment regarder cette
vidéo. À y aller, quoi.
À y aller.
Vous allez passer de bon moment. Il n'y a pas qu'il y ait des projets en vrai, en physique, hein, dans peu de temps à Bordeaux, mais pour l'instant en numérique. Vous avez également des projets à l'international, en Chine et à Pékin, précisément. Racontez-nous.
Alors, la Cité du vin travaille aujourd'hui, les équipes travaillent aujourd'hui sur l'ouverture d'une Cité du vin à Pékin. En fait, c'est la ville de Pékin qui veut, dans un lieu qui est un endroit de rêve entre une montagne et une rivière, créer un village du vin avec à l'intérieur un musée universel du vin. Et cette ville de Pékin, c'est à 40 kilomètres exactement de la cité interdite. Et cette ville de Pékin a confié à Wei Xintang, un Chinois qui a l'âme française, si on peut dire, puisqu'il travaille beaucoup avec la France, sa famille vit en partie en France également, et il est francophone, et il nous a confié donc à la Cité du vin la création de cette nouvelle Cité du vin à Pékin.
Génial.
Très bel outil de 18 000 mètres carrés où on va pouvoir découvrir…
À la dimension de la Chine, quoi.
À la dimension de la Chine, exactement. Nos amis chinois… Alors, Sylvie, le programme sera un petit peu différent, mais nos amis chinois vont pouvoir découvrir tout ce que l'on sait sur le vin aujourd'hui grâce à nos équipes, d'abord scientifiques et puis ensuite artistiques.
Alors, pour bien le préciser, hein, cette cité, elle n'est pas que Bordeaux. Elle est mondiale, donc on parle du vin au sens large. Quoi.
Comme la nôtre, d'ailleurs.
Et comme celle de Bordeaux. Comme celle de Bordeaux, exactement. Donc là, il y a vraiment un côté œcuménique, même si elle est située à Bordeaux, et elle pourrait être située également à Pékin, Sylvie.
Exactement, quoi. Exactement. Et voir ailleurs.
Est-ce que vous aimez, est-ce qu'on parlera des vins de la vallée du Rhône également ?
Dites-nous. Bien entendu, on en parle déjà.
Est-ce que la vallée du Rhône est également à l'honneur, quoi ?
Bien sûr.
Bon, alors ça tombe bien parce qu'on reçoit maintenant, Sylvie, vous restez avec nous, avec Philippe, Jean Esprit, qui est l'une des stars de la vallée du Rhône. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors vous êtes confiné où ? Alors on a vu Sylvie qui est dans son grand jardin avec un peu de cèpe de vigne. Et vous êtes basé où ?
Donc nous on est sur Pont d'Isère, hein, donc je suis dans mon domicile.
À votre domicile, c'est très bien ça. Alors si je vous dis que vous avez un peu une génétique de zouave, ça vous perturbe ou pas ?
Non, c'est pas faux.
Alors racontez-nous, oui. Donc ça c'était votre arrière-arrière-grand-père et l'histoire débute en 1872.
C'est ça. Donc, en fait, mon arrière-arrière-grand-père donc a fait son 4e régiment des oies, et c'est en rentrant de son régiment qu'il est venu s'installer à Pont-d'Isère, qu'il a construit le corps de ferme et qu'il a développé l'activité. Donc, c'est vraiment lui qui a lancé le domaine, et c'est vraiment un clin d'œil qu'on a voulu lui faire sur notre cuvée haut de gamme. Voilà.
Ouais, là, c'était le tout début. Est-ce que vous savez que 1872, c'est une année qui est très importante pour les amateurs de foot et de rugby, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en France? Ah, vous le saurez pour le soir. Hein. C'est simplement l'arrivée du rugby de Sud Radio. C'est aussi, on parle vrai, mais on parle de rugby aussi. C'est l'arrivée du rugby en France, arrivée d'ailleurs en Normandie, au Havre. Alors, racontez-nous cette histoire du domaine. Donc, c'est l'arrière-arrière-grand-père qui l'a créé. Et ensuite, donc, vous êtes la cinquième génération, Jean. Il y a eu pas mal de changements.
Voilà, justement. Donc, on a toujours donc un vignoble qui est assez historique donc sur la propriété. Donc, on a pas mal de vieilles vignes pour une partie qui ont une centaine d'années, donc en 2020. Donc, c'est vrai que moi, j'ai repris la propriété en 2017. Donc, ça fait peu de temps que je suis sur le domaine.
Et on Vous êtes œnologue de formation, c'est ça? Vous êtes œnologue?
Donc, j'ai suivi des études voilà en œnologie et en viticulture dans différentes régions viticoles. Et du coup, voilà, je me suis lancé à mon compte en 2017 pour vraiment produire nos cuvées issues de nos vignes, quoi.
Ouais. Et vous avez également effectué pas mal de stages hein, pour comprendre le vin avant de faire les bêtises chez les autres, hein, avant de revenir chez vous sur vos terres. Vous avez notamment effectué un passage en Nouvelle-Zélande. Un petit mot sur cette expérience, Jean, c'était sympa?
Ah oui, la Nouvelle-Zélande, c'est un très joli pays, hein, qui justement avec un magnifique vignoble, une belle diversité. Bon, on est sur d'autres dimensions, c'est des structures beaucoup plus grosses. Hein. Le petit domaine là-bas, c'est 300 hectares, donc on n'est pas du tout sur la même chose que chez nous. Donc c'est vraiment donc c'est vrai que c'est, mais au niveau fonctionnement et au niveau travail, c'est il y a un bel esprit et je pense qu'il y a
des choses. Ça marche bien, quoi. Philippe Forbrac, alors c'est vrai, quand on pense Nouvelle-Zélande, on se dit Auckland, Wellington, les All Blacks, le rugby, certes, mais c'est aussi, il faut le souligner, un grand pays du vin.
Oui, on pense à Hawke's Bay dans le sud de l'île du Nord, on pense à Blenheim, Marlborough, enfin toute la partie de nord de l'île du Sud avec des vignobles de Sauvignon et de Chardonnay magnifiques. Parmi les cépages qui deviennent un peu emblématiques de la Nouvelle-Zélande, il y a le Sauvignon blanc qui est devenu une star de la Nouvelle-Zélande déjà depuis un certain temps, mais il y a aussi le Pinot noir du côté de Central Otago notamment, qui gagne du terrain en termes à la fois de qualité et donc de notoriété. Pas beaucoup de Syrah, ni de Rosa, ni de Marsanne, mon cher. Ah oui,
et pourquoi d'ailleurs? Hein, pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas beaucoup là-bas, Philippe? C'est le climat ou c'est un choix de...
Ah, mais je pense que la climatologie et la géologie, effectivement. Et puis, ils ont laissé, je pense, le Syrah ou le Shiraz à leurs amis australiens.
Oui, c'est ça.
Et effectivement, avec ces climats qui sont un peu différents, ils ont effectivement plutôt cultivé et développé les cépages dont je viens de parler.
Allez, Jean Esprit, on revient vers vous, donc dans cette belle vallée du Rhône. Donc, vous le soulignez, vous avez rejoint le domaine familial en 2017 et vous travaillez sur deux magnifiques appellations, Crozes-Hermitage et Cornas.
Donc, voilà. Donc, nous, on travaille donc principalement sur l'appellation Crozes-Hermitage. Donc, nous avons 15 hectares donc en propriété, 14 donc en rouge, donc avec le cépage Syrah, hein, qui est issu donc, qui est dans son berceau d'origine, hein, la vallée du Rhône. Au niveau du secteur, on est vraiment sur le secteur référence au niveau de la Syrah. Et ensuite, on va avoir un hectare donc en Marsanne et Roussanne, qui sont les deux cépages blancs donc de l'appellation Crozes-Hermitage.
Essentiellement, un petit mot peut-être, Marsanne, Philippe
Orbach. Il y a de très grands vins blancs dans ce secteur-là. C'est vrai qu'on évoque toujours le cépage Syrah parce que c'est le cépage de cette région, hein, qui est à la fois un croisement de cépages ardéchois et savoyards. Mais les blancs sont superbement intéressants. La Marsanne, notamment, ces derniers temps, je trouve, a gagné du terrain. Et c'est assez logiquement que dans votre cuvée, je crois qu'il y a 70% de Marsanne. Et c'est pas étonnant parce que c'est ce qui donne de l'ossature, qui va donner justement cette fraîcheur, cette profondeur également. Et puis cette petite amertume noble qui est super intéressante. Et puis la Roussanne, qui apporte un peu son complément à la fois aromatique et gustatif. Ce sont à la fois des vins blancs qui sont très bons. Jeune, parce que il y a beaucoup de fraîcheur, il y a une certaine ampleur, et selon les millésimes, c'est aussi des blancs qui se conservent très bien.
Alors, sur combien de temps, Philippe? Sur 5 ans, 10 ans?
10 ans, ouais. Même 10 ans, 15 ans, il y a pas de souci. Après, c'est plus qu'une question de stockage, et de bouchons quelque part, un peu.
Ah, voilà. Oui, la température de service, tiens, puisqu'on en parle, Philippe Forbrac, sur un cross blanc ou un cross rouge, quand on est tranquillement à la maison, confiné, qu'on veut offrir un vin de la Vallée du Rhône à Sylvicas, par exemple, quelle est la bonne température pour séduire Sylvie?
Alors, si il est jeune et que vous le boire à l'apéro, servez-le autour de 8 degrés, par là, voilà, on va avoir la fraîcheur qui convient. Si vous voulez en profiter avec un plat, et les blancs sont super intéressants aussi avec des plats, bien sûr du poisson, mais aussi des volailles, voire du fromage. Là, vous pouvez monter autour de 10-12 degrés, vous allez retrouver l'ampleur qui convient. Côté rouge, moi, j'avoue que quand ils sont jeunes, j'adore les syrahs sur leurs fruits éclatants, quand le côté voilà, très très fruit noir et fruit rouge, mais surtout fruit noir est très présent et le côté poivré vient intervenir.
Quoi, 16 degrés pour ça?
Oui, même peut-être 15-16 degrés, allez. Température de cave ou de bouteille qu'on sort de la cave et qu'on laisse quelques instants avant de la
goûter. Jean-Esprit, vous êtes d'accord avec c'est Philippe super, il faut toujours être d'accord avec Philippe Orbach. Hein. Vous êtes d'accord,
Jean? Non, on ne peut pas dire. Du débat naît la lumière.
Bon, alors Jean-Esprit, il paraît que vous êtes un coquin, vous êtes un adepte de la confusion sexuelle.
Ah.
Alors racontez-nous ce que ça signifie, ça.
Oui, donc ça, ce sont des méthodes qui sont utilisées donc, en agriculture biologique. Donc, la confusion sexuelle, justement, c'est utilisé pour perturber un petit peu la reproduction de certains papillons qui ensuite donnent des chenilles et qui vont ensuite faire manger ou faire des trous dans nos raisins. Donc, c'est vraiment une lutte, justement, en prévention pour éviter, justement, la propagation de pourriture par derrière.
Aujourd'hui, donc, pour la partie distribution en temps normal, hein, en dehors de cette période compliquée, vous avez combien d'hectares au total? Vous produisez combien de bouteilles et vous les vendez via quel type de réseau en France?
Voilà, donc nous, donc on est sur 15 hectares, donc on en produit simplement donc 30 000 bouteilles là. Donc comme on démarre l'activité que depuis 2017, donc on fait 30 000 bouteilles. Et c'est essentiellement donc sur la restauration, belle restauration, gastronomie étoilée. Bon, en ce moment c'est un petit peu compliqué.
Compliqué.
Un petit clin d'œil d'ailleurs. un petit clin d'œil à Michel Chabran.
Oui. De Pont-d'Isère aussi.
Tout à fait. Restaurateur. Ouais. Devant l'éternel et à tous nos amis restaurateurs plus largement en France et à l'étranger qui effectivement passent une période un peu compliquée. On en a parlé tout à l'heure avec Sylvie Caz en évoquant le chapon fin.
Donc ça veut dire, Jean, aujourd'hui que c'est tout est à l'arrêt. Donc il faut avoir un petit peu de trésorerie, il faut aller étudier les aides de l'État, hein, le prêt garanti par BPI France également. Donc vous êtes dans la… Il ne faut quand même jamais oublier que derrière un vignoble, il y a une entreprise, il y a des hommes, il y a des salariés et vous souffrez comme toutes les entreprises françaises.
Ben du coup voilà, hein, donc la vigne, elle s'arrête pas parce qu'il y a le virus, donc elle continue à pousser, il faut l'entretenir, bien sûr, donc on a des charges et bien sûr qu'on continue. Pour nous, notre système ne change rien, c'est juste qu'au bout d'un moment, voilà, la trésorerie, comme vous dites, si les ventes ne repartent pas, seront un petit peu plus tendues. Hein. Bon.
Et aujourd'hui, dans la vigne, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le raisin, le début du raisin est positif, comme à Bordeaux, on en est où alors?
Oui, il y a une jolie sortie. Donc là, on commence à voir justement les grappes visibles. Donc, on va attaquer donc les travaux des bourgeonnages. Et sinon, il y a une jolie production avec une belle sortie et le millésime s'annonce plutôt prometteur. On est assez sec pour le moment. Oui. On espère qu'il y a un petit peu d'eau qui arrive quand même, mais bon, pour le moment, c'est.
À Bordeaux, vous en passez un petit peu, ou alors.
On aimerait bien. Quoi,
directement. Et dites-nous, les vendanges l'an passé, c'était à quelle date là? Parce que c'est de plus en plus précoce dans votre région, non?
Oui, donc c'est vrai qu'en général, donc l'an dernier, on était à peu près quand même, on avait une semaine d'avance à peu près, mais on reste toujours sur la première semaine de septembre. En général, on reste quand même.
Première semaine de septembre, quoi. Voilà. Et c'est pas trop compliqué pour trouver des vendangeurs, des gens qui viennent passer quelques temps avec vous, là, parce que à une époque, c'est très facile, il y avait beaucoup d'étudiants, mais là, ça a beaucoup changé tout ça, hein.
Oui. Ben nous, on a la chance de travailler quand même avec une équipe d'habitués. Et puis, bon, comme je vous disais, on est très familial. J'ai beaucoup de famille qui m'aide aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une entraide quand même qui est entre nous. Et nous, en général, on arrive quand même au niveau des vendanges. C'est pas le plus compliqué.
Donc. C'est pas le plus compliqué, quoi. L'exportation, ça vous tente un peu? C'est le début parce que
on a en fait 2017, un petit peu,
2020, ouais. c'est tout récent, quoi.
Oui. La commercialisation, ça fait à peine 2 ans. Hein. Donc, si, à l'export, on démarre un petit peu. L'Europe aussi, Europe du Nord. Donc là c'est toujours un petit peu dans le contexte un petit peu compliqué pour tout le monde au niveau de l'Europe. Donc mais si, on démarre et on est plutôt content. Jusqu'à présent, on était content.
Alors on a parlé avec Sylvie Caz tout à l'heure de la cité du vin de Bordeaux. Le no-tourisme également, on en a parlé avec cette société Bordeaux Saveur qui officie en France, mais également à l'international. Est-ce que vous également, en tant que vigneron de taille modeste, hein, 15 hectares, mais dynamique et sympa, du haut des 30 ans, ça vous concerne aussi le tourisme? Quand vous voyez des Anglais qui viennent, vous leur dites « English spoken » en disant « bonjour, bonjour ». Comment ça se passe chez vous?
Oui, donc c'est vrai que du coup, je pense que la Vallée du Rhône, on n'était peut-être pas les premiers à forcément développer tout ce qui était œnotourisme. Bordeaux avait une longueur d'avance sur nous. Et c'est vrai que je pense que là, maintenant, on commence justement à mettre en place de nouveaux systèmes avec des festivals. Et petit à petit, justement, on commence à gagner un petit peu plus de notoriété au niveau des événements qui sont créés autour du vin dans la région. Et si, on a la chance d'avoir le Rhône, justement, qui passe pas loin. Donc, on a beaucoup de croisières aussi. Donc, les gens s'arrêtent pour des événements. Donc, il y a une belle activité qui se développe.
Oui, la région s'y prête.
Exactement, quoi. La région est belle. Les vacances vont bientôt arriver. Pour vous, c'est crucial, et je pose la question également à Sylvie Caz, que voilà, qu'on puisse accueillir des touristes, des clients, au moins du 1er juillet, d'un point de vue économique pur, Jean. Et ensuite, Sylvie. Jean.
Oui, donc nous, on a beaucoup de touristes normalement qui viennent, beaucoup d'Américains. Bon, donc cette année, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais c'est important, le tourisme est vraiment très important, bien sûr, pour le développement de nos vins, des marchés, complètement. Ouais.
Sylvie, également, donc, sur les Français et sur les touristes européens cette année, à mon avis.
Oui, absolument. Oui.
Sylvie Caz, vous en pensez quoi?
Oui, c'est évidemment des touristes français et des touristes européens. C'est très important et nous sommes en train de mettre en place avec nos partenaires dans les propriétés viticoles des moyens de pouvoir assurer à nos clients d'avoir un protocole qui leur permettra de faire toutes ces visites à la fois dans le vignoble et à la fois dans les chais en toute protection.
Oui, et au niveau donc… Philippe Orbach, vous en pensez quoi? C'est-à-dire que il y a beaucoup de vignerons de Français qui souffrent en ce moment. Ils attendent tous cette réouverture, de pouvoir accueillir les touristes. Si malheureusement les conditions sanitaires ne peuvent pas le permettre, parce que voilà, la priorité c'est quand même le sanitaire, ça va être dramatique aussi pour les vignerons français, selon vous, sans être toujours négatif?
Ça va être dramatique. Oui, bien entendu, ça va être dramatique économiquement parlant pour toute la filière, que ce soit les vignerons, que ce soit les cavistes, que ce soit les restaurateurs, tous les distributeurs. C'est effectivement quelque chose qui va être catastrophique. On peut espérer qu'effectivement, en mettant ce qu'a bien expliqué Sylvie Caz, en mettant en place des process, des protocoles, ça puisse à la fois être sanitairement le plus adapté possible et surtout rassurer les gens. Parce que c'est pas le tout que ça soit en place, ni que ça soit effectivement parfait. C'est que les gens acceptent effectivement de venir retrouver ce que l'on véhicule depuis longtemps, c'est-à-dire la convivialité, la rencontre et le partage.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean, pour terminer, Sylvie, là, pour cette période, ce mois d'avril, là, où c'est quoi? Tout le bonheur du monde?
De l'eau.
De l'eau et puis une chanson. Alors, il y a de l'eau dans la Vallée du Rhône, et vous, Sylvie, du soleil à Bordeaux, encore plus?
Encore plus, mais on a eu une belle période de soleil, là, vraiment. Une très, très, très belle homogénéité. Oh.
Merci beaucoup, Jean Esprit. Merci également, Sylvie Caz.
Belle campagne.
Ah oui, exactement. Il ne faut pas oublier les primeurs. Merci à tous les trois. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve demain, on compte sur vous, demain à 12h30 précise. Pour une nouvelle émission, nous ne serons pas en direct du caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine pour des raisons que vous connaissez. On parlera du concept Divine, également des Côtes de Gascogne, de l'Istrac Médoc. Bref, on a un joli programme et on retrouvera notamment David Cobold, notre anglais de service. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, soutenez à fond tous les vignerons en français et surtout respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, InVino.